Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Anticapitaliste pour ce nouveau format, les tables rondes. Nous, ça nous semblait important de commencer ces tables rondes sur la situation en Israël et en Palestine. Pour ça, on a du coup plusieurs invités. Alors, on a Michel Siboni de l'UJFP, qui est porte-parole de l'UJFP. Dror, toi, tu fais partie de la commission internationale du syndicat Solidaire. Et Mouzna, qui est une réfugiée palestinienne de Haïfa. Et tu as été aussi conseillère pour l'OLP pendant les négociations. Et on va recevoir aussi Omar Slaouti, qui est militant solidaire de la Palestine, notamment pour BDS. Alors, l'idée, ça va être de parler un peu de la situation à la fois en Palestine, mais aussi des répercussions qu'il y a en France. Peut-être pour commencer, Mouzna, est-ce que tu peux nous dire un peu la situation à Gaza depuis l'attaque qui a eu lieu le 7 octobre?
Merci. En fait, c'est une machine de guerre continue. C'est toutes les secondes, on a des nouvelles qui nous parviennent de Gaza. Pas des nouvelles directes. J'ai un cousin, par exemple, et des amis. Je n'ai plus de contact avec eux depuis quelques jours puisqu'il n'y a plus d'électricité. Mais ce qu'on voit, c'est surtout sur Al Jazeera où on montre les dégâts, les massacres tous les jours. Depuis le 7 octobre, on a plus de 100 enfants tués par jour. Donc aujourd'hui, on est à plus que 700 enfants déjà tués. Les gens vraiment, ils savent pas quoi faire. On leur demande de partir. Ils vont aller où? C'est une prison, comme tout le monde le sait. Gaza, c'est une prison depuis bien longtemps. Et contrairement à ce qu'on dit, Gaza n'est pas bouclée seulement depuis l'arrivée de Hamas au pouvoir, mais bien avant. Gaza a toujours été un endroit qui a été fermé complètement, même pendant les négociations et les accords de paix. Il y avait beaucoup de gens qui venaient de Gaza pour aller faire des études à Ramallah, donc à l'université qui est un peu plus prestigieuse de Birzeit, et qui après étaient complètement coupés de leurs parents, de leur famille. Parfois même des parents qui mouraient, les enfants ne pouvaient pas aller voir. Donc en fait, les gens de Gaza avaient toujours été en prison, à ciel ouvert. Et s'ils arrivaient à sortir pour faire des études, soit ils ne pouvaient plus jamais revenir, soit ils étaient bloqués à Ramallah, ou ils pouvaient même pas sortir de Ramallah parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Donc c'était une situation très difficile pour tout le monde. Et ceux qui ont la carte de Gaza sont toujours des gens qui avaient le plus de malheur, en plus bien sûr des camps de réfugiés, des Palestiniens qui ont été expulsés de chez eux en 1947-48.
Oui, d'ailleurs, oui. Ouais.
Je
Désolé.
Est-ce qu'on continue en attendant ou est-ce qu'on attend qu'il monte?
Ah ouais,
C'est la pause.
Bah, c'est la pause pour t'attendre.
Salut Michel.
Oh, bah, c'est bien, tu vas vous donner de l'énergie.
Ça c'est. C'est bon là, vous m'entendez? Ça c'est l'arrêté qui nous interdit de distribuer des tracts à Argenteuil. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon? C'est bon?
On peut y aller? On est donc rejoint par Omar Slaouti, qui est militant à Argenteuil Solidarité Palestine et à BDS. Bonjour à toi, Omar. On discutait donc de la situation à Gaza. Et Mouzna, est-ce que tu peux peut-être revenir sur l'histoire aussi de Gaza?
Oui, alors en fait, Gaza, c'est une partie de la Palestine dont la population a été expulsée de chez elle en 1948. À peu près 80% de la population est réfugiée, qui demande toujours le retour à ses villes et villages d'origine et qui n'a toujours pas eu ce droit jusqu'à aujourd'hui. C'est une ville encerclée de partout, notamment par Israël. Les gens n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit de rentrer. Il faut des permis, c'est très très difficile d'avoir un permis. Et puis au fur et à mesure des années, Gaza a commencé à être de plus en plus enfermé. C'était la première le premier territoire palestinien qui était complètement coupé du reste du territoire palestinien, notamment en 1991. Donc chose qu'on ne sait pas, on dit toujours que ça a commencé en 2007 et quand le Hamas a gagné démocratiquement, était élu le Hamas. Mais en fait, en 1991, donc même avant les accords de paix, Gaza a commencé à être fermé avec un système de permis donné par l'occupation israélienne. et les gens ne pouvaient plus circuler, ce qui fait une coupure des familles, puisque les gens avaient de la famille ailleurs en Palestine. Ça voulait dire aussi que les gens qui même faisaient du travail ou avaient du travail en Cisjordanie ou en Israël ne pouvaient plus partir. Donc au fur et à mesure des années, la Gaza est devenue de plus en plus appauvrie, enfermée, une prison. Et on peut dire que c'est vraiment aujourd'hui un camp de concentration en train d'être bombardé par Israël chaque minute, je peux dire. C'est-à-dire que quand je regarde les informations, c'est des familles entières. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 50 familles qui ont été anéanties depuis le 7 octobre seulement. 50 familles qui n'existent plus. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, comme ils devaient être ensemble pour essayer d'aller dans les maisons où Israël disait « aller plus vers le sud pour être protégés », en fait, les gens allaient ensemble, en famille, soit ils étaient dans les maisons, ils se faisaient bombarder, ils sont morts. Et ça continue. Moi, je parle du passé, mais en fait, c'est quelque chose, c'est des massacres tous les jours et toutes les heures, d'ailleurs. Et ou bien les gens, pendant qu'ils sont en train de faire leur trajet en voiture, ils se font bombarder alors que les Israéliens leur ont bien demandé de partir. Et dans les médias, les Israéliens montrent qu'ils veulent protéger cette population. Donc il y a une machine de guerre immense maintenant contre la population qui est de 2,2 millions d'habitants. Et ce sont tous des civils, la majorité. Voilà, c'est la situation qui est vraiment catastrophique. C'est des massacres continus. On en est à plus que 2300 morts en une semaine, dont 700 enfants. Et donc, voilà, c'est vraiment dramatique. Là, je regardais sur Al Jazeera, il y avait le correspondant qui découvre, pendant qu'il était dans la rue, qui découvre que ses voisins viennent d'être tous massacrés et qu'ils essayent de faire sortir. Alors, en plus de tout ça, les gens, quand ils sont bombardés chez eux, il n'y a pas de matériel à Gaza, il n'y a même pas de moyens de les faire sortir. Donc, en fait, c'est la population elle-même, la population civile qui essaye d'aider en essayant de faire sortir les gens sous les décombres, ce qui est bien sûr quelque chose de très, très pratiquement impossible à faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de morts.
Oui, tu parlais de la situation catastrophique. Michel, j'ai vu que tu avais écrit un édito sur la situation actuelle à Gaza, où tu parlais de la question d'une seconde Nakba, en fait, sur la situation actuelle. Est-ce que tu peux en parler un peu ?
Ben, l'ordre donné par le gouvernement israélien actuel de déplacer tout le nord de Gaza vers le sud correspond à... Enfin, a des conséquences catastrophiques, parce que on est d'accord qu'on est sous la déclaration, on est régi par la déclaration du ministre de la Défense, nous imposons un siège total contre la ville de Gaza, il n'y a pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant, tout est fermé, nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence. On est donc dans ce cadre, c'est dans ce cadre-là qu'on demande à une population sous bombardement constant, comme l'a dit Mousna, d'organiser l'évacuation de la moitié du nord vers la moitié du sud de la bande de Gaza, sachant qu'on a affaire à la zone la plus densément peuplée du monde. C'est-à-dire, il n'y a ni les infrastructures pour le faire, ni la possibilité matérielle d'héberger au sud le nord, sachant que le sud n'est pas en meilleur état que le nord. Ce qu'attendent les Israéliens, et tout le monde le sait, c'est la pression exercée sur la Jordanie et sur l'Égypte, surtout sur l'Égypte, pour qu'elle ouvre la frontière sud de la bande de Gaza. Il s'agit donc d'une demande d'expulsion, assortie d'une menace. Si vous ne le faites pas, vous, les Gazaouis, assumerez les conséquences de l'éradication de cette population. Et juste pour ajouter un petit mot, c'est une réflexion qui me traverse récemment, et je me dis quand même, il faut le dire à un moment donné, en tout cas, il faut la poser et en discuter. Pendant longtemps en Israël, on a pratiqué, depuis la gauche israélienne, hein, qui a inventé l'idée du mur de séparation, elle a mis en place le mur de séparation. C'est sous Rabin qu'on a commencé le développement des routes de contournement des colonies, c'est-à-dire la mise en place d'une structure d'apartheid. Les gouvernements suivants ont continué et développé cette structure d'apartheid. Il me semble, et je me trompe peut-être, mais vraiment j'ai envie qu'on en parle, que le dernier gouvernement, ce gouvernement d'extrême droite dirigé par Netanyahou, il a fait... L'apartheid ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la Palestine de la mer au Jourdain. Les nationaux religieux israéliens, ils sont pour le grand Israël. Ils ne sont pas pour un Israël coupé en deux avec d'un côté les Palestiniens. Donc, ce qui est sur la table, c'est plus l'apartheid. C'est ou l'épuration ethnique, ou l'extermination. C'est-à-dire, c'est prendre la responsabilité d'un génocide éventuel. Parce que si on tue 1 million de personnes sans broncher, et je dis 1 million, c'est la moitié des habitants de Gaza, ça peut être tous les habitants de Gaza. On sait que toute la dernière période en Cisjordanie est une période de chasse à l'homme, et de chasse à l'enfant d'ailleurs, et de chasse à tout le monde, sur des gens enfermés aussi dans des cages en Cisjordanie, et qui n'ont pas où fuir. Dans un village cisjordanien, on n'a pas où fuir quand les colons débarquent sous la protection de la police et organisent un pogrom. Donc on est dans cette situation-là, c'est une situation catastrophique, et on est au bout d'une logique qui est évidemment extrêmement mortifère, qui a sans doute provoqué l'attaque du Hamas sur ce que les Israéliens appelaient l'enveloppe de Gaza, c'est-à-dire la zone autour de Gaza, de ces villages et kibbutz, et qu'ils viennent d'ailleurs de rebaptiser parce qu'ils n'osent plus prononcer le mot de Gaza. Ils appellent ça maintenant le Negev occidental. Je m'arrête là, mais je reprends.
Alors justement, sur cette attaque de Gaza, est-ce qu'on peut revenir sur la résistance palestinienne, sur quelles sont ses composantes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en parler?
Si vous voulez, mais je suis pas un expert, je suis juste un témoin de ce que je vois. D'abord, pour mettre un peu de contexte, ça fait une bonne vingtaine d'années que les Palestiniens, les Palestiniennes, les militants sur place ont essayé tout ce qui était possible de lutte non violente. Je veux dire, depuis autant les attentats étaient dans la stratégie, dans les tactiques des groupes palestiniens pendant et autour de la deuxième intifada, depuis 20 ans, les attentats ont été divisés par 10 ou plus, quoi. Donc vraiment, tout a été tenté, que ce soit les négociations, signer des traités de paix, pardon. Il y a eu les voies électorales qui ont été cassées. Il y a eu des appels à la solidarité internationale, des appels à des sanctions qui n'ont pas été faites, même quand l'ONU les réclamait. Il y a eu aussi de la part des citoyens des démarches d'appel au boycott, des investissements et sanctions, qui est une démarche non violente pour faire pression sur Israël pour qu'Israël respecte le droit international. Rien de tout ça n'a eu d'effet, et pendant ce temps-là, Israël renforce la colonisation, renforce la répression, muselle les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, rajoute à ça un blocus, 6 guerres en 16 ans, des milliers de morts civils palestiniens. Donc, et puis pendant ce temps-là, Israël qui croit que ça y est, c'est réglé, la sécurité de ses citoyens est garantie. Qu'est-ce qui reste aux Palestiniens après 20 ans de tentatives non violentes? Soit mourir à petit feu et en silence, soit, et effectivement, et en fait ça fait à peu près un an, depuis 2022, on revoit apparaître la lutte armée comme une tactique mise en œuvre par certains groupes palestiniens. Ça a commencé, on l'a vu, en Cisjordanie, avec les groupes comme les Lions de Naplouse, les Frelons de Jenin, les Brigades de Balata. C'est des petits groupes armés, mais c'est une nouveauté. Et alors, moi, je suis pas un expert, je sais pas qui est affilié à qui, si c'est Hamas, Djihad islamique, Fatah. Je sais que ces petits groupes-là, ils sont très fiers de dire, nous, on est personne et tout le monde. On n'est pas affilié à un groupe, mais on parle avec tout le monde. Donc, il y a une unité, au moins dans les groupes armés. Et du coup, je suppose qu'il y a la même unité à Gaza. Mais je peux pas en dire plus, sauf que c'est ce que j'observe.
Michel, peut-être un mot aussi là-dessus. Oui, je voulais juste dire qu'on sait, parce que tous les groupes de résistance de Gaza ont revendiqué d'avoir participé à l'attaque du Hamas. Je voudrais juste revenir sur l'opération de propagande qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui date quasiment de la mise en place du siège et après des attaques successives israéliennes. La propagande sur Gaza, qui est un haut lieu de résistance. Gaza, c'est un haut lieu de la résistance palestinienne. N'importe quel Palestinien, où qu'il se trouve, vous le dira, c'est l'endroit où on résiste. Et où on a toujours résisté. Il y en a d'autres, évidemment, hein, ça n'est pas à l'exclusion des autres. Mais si vous voulez, comme c'est un des lieux où on a cogné le plus, la résistance a une image peut-être plus héroïque ou plus flamboyante qu'ailleurs. Il s'agissait donc de détruire cette notion de résistance dans l'esprit des gens, du commun des mortels, y compris des Français, des Européens, etc. Comment on fait? On ne parle plus d'aucun groupe à Gaza, on ne parle que du Hamas. Gaza égale Hamas. Donc la notion de résistance disparaît dans les esprits et ne reste que la notion de de terrorisme, puisque Gaza égale Hamas égale terrorisme. Voilà, c'est ça qui a été mis en place, mais depuis 20 ans maintenant, pas depuis aujourd'hui. Et c'est dans l'esprit des gens. Je veux dire, en Israël, il y a une expression, quand on envoie au diable quelqu'un, on lui dit « Lech le Gaza, va à Gaza ». C'est pour dire « va au diable ». C'est pour vous dire à quel point c'est diabolisé, quoi.
Omar, peut-être un mot aussi ?
Oui, toujours pour avancer dans les nuances, parce que tout est une affaire de nuances dans cette affaire-là. À Gaza, c'est une société civile où il y a des contradictions internes, comme dans toutes les sociétés. Et donc, quand on s'y rend, on rencontre des syndicats, des regroupements militantes de femmes qui revendiquent, par exemple, les mêmes droits que les hommes une fois qu'elles sortent des geôles israéliennes, des étudiants et des étudiantes qui n'en peuvent plus parfois des conditions de travail, etc. Et donc, ils s'opposent au pouvoir en place, comme j'ai envie de dire, dans n'importe quelle société. C'est le Hamas qui est au pouvoir, certes, mais de ce point de vue-là, il y a des contradictions internes propres à toute société. Et c'est une société qui n'est pas figée, une société extrêmement vivante, avec des luttes internes, des revendications propres à la société civile, pour reprendre un terme qui est d'usage un petit peu courant. Et à côté de cela, ça a été dit, mais il faut le dire, il y a toutes les autres forces de résistance palestinienne qui ont une grande légitimité historique, que ce soit le djihad islamique, le Fatah, le FPLP, le FDLP, etc. etc. Et avec évidemment des divisions tactiques, parfois même au sein même de ces organisations de résistance, même si on peut le dire, et c'est important de le dire, dans ces moments précis d'oppression coloniale, il y a une unité qui se fait le jour. Une unité par le sang, par les larmes, parce qu'ils pleurent et elles pleurent les conditions dans lesquelles ils vivent en continu depuis 17 ans de blocus, au moins ça, plus tout ce que tu décrivais précédemment, mais au moins ça, et puis davantage encore dans ces moments aigus, de crise aiguë, où là, ce qui est programmé clairement, c'est un début d'extermination. Ça peut pas se faire autrement. On n'imagine pas le délire. 1 million de personnes à déplacer dans un délai de surcroît de 24 heures. Déjà, rien que la première assertion fait mal à la tête. Mais dans un délai de 24 heures, imaginons que l'on dise aujourd'hui, les 667 000 colons doivent quitter les colonies en 24 heures. Imaginez le tollé que ça ferait dans la communauté internationale. 667 000 colons. Parce que c'est ça la réalité. Et puis le contexte est le suivant, que tout le monde connaît. On va y venir. On n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat. Mais on n'est pas de ceux et celles qui prenons une séquence, qui refusons de voir tout ce qui s'est passé avant et potentiellement tout ce qui peut se passer après. On a tous vu et assisté aux images de ce qui s'est passé en Israël. Mais pardon de dire que tout ça s'inscrit dans un fil historique. On peut le dire très tranquillement, il n'y a strictement aucun problème. D'un point de vue moral, la mort de tout individu est évidemment condamnable, que ce soit un enfant, du reste ou pas. D'un point de vue moral, il n'y a strictement aucun problème de ce point de vue-là. Et il faut le condamner. Mais, le contexte politique doit être rappelé à chaque fois, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce même contexte politique que Tsahal, aujourd'hui, met en avant pour faire le sale boulot qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Eux n'hésitent pas à faire des liens de causalité, des liens de cause à effet entre hier et aujourd'hui. Par contre, il nous est dénué à nous la possibilité de faire des liens. Or, les liens, ils sont très simples. En 2021, c'est pas très loin, 2023, 2021, mois de mai 2021, 11 jours de bombardement sur Gaza. 50 000 logements détruits, des centaines de morts, plus de 60 enfants morts dans ces conditions-là, des centaines d'établissements scolaires détruits, 33 hôpitaux et cliniques détruits, pas d'électricité sur au moins 11 heures dans la journée, ce qui veut dire que le traitement des eaux, parce que l'eau vient des nappes phréatiques et elles sont impropres à la consommation. C'est pas nous qui le disons, c'est pas le NPA, c'est l'ONU, ce sont des commissions propres à l'ONU. Eh bien, tout ça, c'est la réalité du quotidien, par exemple depuis 2021. Et quand à l'ONU, certains proposent une commission d'enquête, simplement proposent une commission d'enquête. C'est pas violent, une commission d'enquête. C'est pas le NPA ou RP ou la LFI qui propose une commission d'enquête. Ce sont des instances de l'ONU. Que font les pays occidentaux? Et ils votent contre cette commission d'enquête. Ou alors ils s'abstiennent au mieux. Et évidemment, ça veut dire quoi? C'est un laisser-aller, la possibilité pour Israël de continuer de faire son travail de colonisation à l'extrême. Alors, tout ça explique que tout ça s'inscrit dans un contexte, évidemment, et nous qui faisons de la politique, on va pas se cacher dans nos petits doigts, notre solidarité est pleine et entière à l'endroit du peuple palestinien et de sa résistance.
Justement, il y a, je voyais Gérald Darmanin qui parlait de manifestations pro-Hamas là-dessus pour parler des manifestations en solidarité à la lutte du peuple palestinien. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu aussi du Hamas en soi? Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on appelle le Hamas? Est-ce que quelqu'un veut en parler un peu?
C'est un mouvement politique, comme tout mouvement politique dans le monde, qui a gagné les élections. Moi, j'étais là-bas à l'époque. Je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup d'argent de l'Union européenne pour les gens modestes palestiniens, ou bien pour les ONG palestiniennes comme l'ONG de Hanan Achaoui pour inciter les femmes à aller voter, etc., etc. Et je me souviens très bien juste après les résultats où tout le monde était choqué, comment le Hamas a pu avoir ces résultats, où Hanan Achaoui, elle a fait une conférence et elle a dit, elle était à l'époque, elle était aussi membre du Parlement palestinien, elle a dit qu'avec tous les millions qu'on a reçus de l'Union européenne, pour faire des projets pour les femmes et pour leur expliquer l'importance des élections, le Hamas, sans cet argent, ils ont réussi, tout simplement, parce que le peuple, il y avait un problème avec le Fatah, il y avait plus de négociations, il y avait des colonies partout, donc les gens ne sont pas bêtes, c'est une société.
Oui. Je ne veux pas te couper, mais il y a aussi le fait qu'Israël a largement encouragé le développement du Hamas. Oui. Et j'ai entendu une responsable politique d'une chaîne de télévision proférer un mensonge ahurissant en disant que que c'était le Hamas qui avait détruit les cadres de l'OLP et du Fatah, alors que c'est Israël qui a eu une véritable politique d'assassinat ciblé qui a éradiqué une classe du Fatah et de l'OLP pour favoriser le développement du Hamas. Ils préféraient avoir affaire au Hamas et à pouvoir le diaboliser, ce qui était plus difficile avec une organisation laïque.
Tout à fait. Et on voyait l'importance du Hamas en Cisjordanie. C'était, moi, j'habitais à Ramallah à l'époque, c'était pas que à Gaza, parce que même dans les universités, tout le monde allait vers le Hamas et c'était pas une question de femme voilée ou de c'était une conviction que on a essayé les négociations, ça marche pas, l'autorité palestinienne ils font que payer les salaires des gens qui travaillent à l'autorité, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas ça, on a toujours pas d'État, on a toujours pas de terre, on a toujours pas nos droits, et donc forcément les gens ont pensé que non, on veut pas ça, on veut le contraire. Et malheureusement, qu'est-ce que a fait la communauté internationale? Ils ont boycotté ce gouvernement du Hamas. Et les gens qui travaillaient à l'autorité palestinienne, dans tous les ministères et toutes les administrations, n'étaient pas payés pendant un an et demi. Ils n'avaient pas de salaire. Et il n'y avait plus du tout qui venait, aucun argent qui venait en Palestine. C'est pas que c'est l'argent qui compte, parce qu'en fait, les Palestiniens n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin juste d'une décision politique courageuse, même pas courageuse, juste selon les droits internationaux. Et je pense que oui, je me rappelle, j'avais même des amis qui n'étaient pas du tout religieux, qui soutenaient le Hamas. Donc c'est pas, il s'agit pas d'un groupe, comme on dit, groupe terroriste en Europe, où c'est des gens de la société civile qui font beaucoup de choses, qui travaillent, qui n'ont pas besoin de l'argent de l'Union européenne, donc ils sont respectés aussi par la société palestinienne. Maintenant, après, il y a eu des problèmes, bien sûr, entre le Hamas et le Fatah à Gaza, bien sûr, mais ça, c'est aussi le résultat du boycott international qui a fait que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et du coup, Gaza a été complètement séparé, même politiquement. Donc, les gens qui avaient un passeport à renouveler, il fallait aller chez le Hamas, tout en sachant une chose qui est très importante et que je pense en France, on ne comprend pas ça, c'est que on a des cartes d'identité avec le nom de la ville. Et chaque ville, c'est comme un ghetto, en fait. Donc, si on est de Gaza, on n'a pas le droit d'aller à Ramallah, il faut un permis, et c'est très difficile d'avoir, presque impossible. Et même chose en Cisjordanie. Donc, parce que quand on parle d'apartheid, ça fait un peu comme donner un cours sur l'apartheid, c'est un peu théorique. Mais en fait, en pratique, c'est ça l'apartheid. C'est que moi, je suis de Ramallah, il y a des jours où on me dit, tu n'as plus le droit d'aller à Bethléem, tu restes dans ton ghetto. Et ça, c'est important à comprendre aussi. Donc, les Palestiniens vivent tout ça sans aucune perspective politique, sans État, avec des colons partout, avec maintenant, bien sûr, en Cisjordanie, cette année, il y a eu plus de 250 morts palestiniens par des colons et des soldats. Et 56 depuis une semaine en Cisjordanie. Et ça, c'est des gens, c'est des civils qui ont été tués. Mmh. C'est-à-dire, n'importe qui peut être dans la rue, en voiture, avec son fils, avec sa fille, il se fait tuer par des colons qui sont tous armés. Mmh. Et tout ça, c'est important de comprendre toute cette ambiance. C'est pas venu, l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Mmh. Ça, c'est très important à comprendre.
Oui. Alors, une autre dimension, bien sûr, tu connais mieux que moi la situation, mais une autre dimension en, en droit international. Pour moi, le Hamas, en ce moment, c'est aussi, je dis rien, c'est une armée. C'est l'armée qui, en ce moment, il y a la guerre et il y a deux armées qui se font face. Alors, bien sûr, incomparable en termes de moyens, mais ce que je veux dire, c'est que si on accepte que c'est une armée, et ça veut dire que s'il faut mettre fin au conflit, il faut qu'il y ait à cette guerre, il faut qu'il y ait une négociation entre les deux belligérants. Donc il faut que Israël, qui a minimisé la puissance de ce belligérant-là, reconnaisse qu'elle a une armée face à elle, un mouvement face à elle, et que c'est avec ce mouvement-là qu'elle négocie, qu'elle s'assoit, qu'elle... Enfin, je veux dire, c'est avec celui avec lequel on est en guerre qu'on doit reconnaître et faire la paix.
Vas-y, Omar.
On lien avec ces questions-là qui me semblent très importantes, parce que il y a toute une construction, une reconstruction idéologique de ce que c'est le Hamas. Tu as très bien dit, c'est un parti politique d'obédience islamique, il faut l'assumer, il n'y a aucun problème. Pas laïque, il n'y a aucun problème. Donc je dis, on assume, mais ça, car sur table, il n'y a aucun problème. Et on ne sera pas de ceux et celles qui monteront les uns contre les autres. Il y a les choix des peuples palestiniens sur place. Ils votent pour qui ils veulent. Ici, c'était Macron, c'était peut-être pas le meilleur choix à faire. Enfin bon, on n'a pas demandé l'avis aux Palestiniens et aux Palestiniens. Ils peuvent en penser ce qu'ils veulent. Mais toujours est-il que, voilà, c'est ceux et celles qu'ils ont mis et qu'elles ont mis au pouvoir. Mais par contre, ce dont à quoi on doit s'opposer, c'est très important, c'est les constructions idéologiques qui se font ici. Et pas en finesse. Mmh. Le terme de terrorisme raccroché à toute organisation politique, en fait, qui ne répond pas aux injonctions d'Israël. Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, le Hamas, mais il y a quelques années, 6 ONG, pas des moindres, de la société civile, une organisation qui rassemblait des comités de femmes, par exemple, ont été taxés de terroristes et illégales par l'État d'Israël. L'ONG qui s'occupe des prisonniers, Ademer qui s'occupe des prisonniers palestiniens, dont Salah Mouri est un des porte-drapeaux, des porte-paroles, de la même manière. Une association qui s'occupe des enfants palestiniens, une ONG qui s'occupe des enfants palestiniens, a été taxée de terroriste et d'illégal par l'État d'Israël. Donc en réalité, c'est qu'on a une reconstruction idéologique extrêmement forte qui consiste à nommer le mal, parce qu'on a bien compris que pour eux, c'était l'axe du bien contre le mal. C'est comme ça qu'ils fonctionnent de manière très binaire. Et donc, ils, avec leur propre grille de lecture, eh bien, légitime ici, délégitime là, en fonction du moment de l'histoire. Voilà pourquoi le Hamas était bien vu à ce moment, beaucoup moins à d'autres moments. Et c'est important de rappeler qu'il s'agit bien d'une guerre.
Oui, ça participe aussi du fait que Israël commence par les désigner comme appartenant au terrorisme. Ensuite, il fait passer ça en Europe et aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé avec le Hamas. Hein. Et à ce moment-là, tout le monde est d'accord. Et puis, juste une phrase de plus. Ouais. Dans la conscience européenne, je dirais, il y a des choses qui ont été complètement effacées alors qu'elles existent. Mais c'est comme s'il n'y avait plus d'écho. Le fondement colonial de toute cette situation n'est jamais mentionné nulle part dans les grands médias français. Donc les gens... ou l'oublient, ou ne l'ont jamais su, mais c'est comme si on n'était pas en situation coloniale. Alors qu'il s'agit, pour reprendre ce que disait Omar tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une armée, moi j'aurais dit que c'est une armée populaire, le Hamas, hein, mais enfin c'est toi qui le disais, pardon. Mais il s'agit d'une opération de type militaire dans une guerre coloniale. Comme il y en avait en Algérie, et comme il y en a eu ailleurs, et les guerres coloniales, comme on sait, ne sont pas des guerres propres. Il y a des opérations de pacification violentes et terribles, et il y a des réponses et des réparties aussi violentes et terribles. Alors, il n'y a pas de colonialisme, il n'y a pas de siège. Qui c'est qui parle du siège en Europe? Qui parle du siège? Depuis 2007, ça fait 17 ans de siège. Enfin, je veux dire, c'est ahurissant que pas un mot ne soit dit, surtout même dans cette période. Ils ne rappellent même pas qu'il y a un siège. Et il n'y a pas de contexte politique. Donc, au fond, l'auditeur ou le citoyen français moyen, c'est-à-dire non informé, n'est pas informé, il est même désinformé, et il est livré à ce qui est une opération de propagande montée étape par étape, qui fait que quand il regarde le Hamas aujourd'hui, il est persuadé que le Hamas, c'est un groupe de terroristes qui a pris en otage Gaza, parce qu'il a oublié qu'il a été élu à des élections législatives contrôlées internationalement. Tout ça n'existe plus. Et que Gaza, c'est une ville libre, d'où on entre et on sort comme on veut. Donc, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, ce n'est pas un problème colonial. Donc, il n'y a pas de colons. Et il n'y a pas de colonisés, il n'y a pas d'oppresseurs et il n'y a pas d'opprimés. Il y a juste un groupe terroriste qui fait des siennes de temps en temps et sur lequel il faut frapper.
On efface totalement la situation de domination.
De ça, parce que je pense que c'est très important, parce que moi, en tant que palestinienne, qui a grandi dans les écoles françaises et dont les parents réfugiés rêvaient de cette éducation française magnifique qui apprend bien à faire les choses, à étudier, à écrire, à faire la dissertation comme il faut, à faire sa recherche, être vraiment compétent. Et mes parents étaient fiers que je sois dans ce modèle. Je trouve vraiment incroyable que même si on est, quand on est journaliste ou chercheur, qu'on ne parle pas de tout ça. C'est-à-dire que le contexte, effectivement, c'est très important. Le fait d'utiliser un terme, le terme terroriste, juste parce que ton État à toi, alors que normalement, c'est une démocratie, la France. Donc normalement, pourquoi tu répètes ce que le Quai d'Orsay dit? Et tout le monde le répète ici. Et même des journalistes, parfois, qui sont pas du tout pro-israéliens, mais ça devient... C'est quelque chose, et ça, je trouve vraiment, ça mérite une analyse de qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Comment tu peux être un expert magnifique sur la Syrie, et tu décris très bien la situation, sur l'Ukraine, tu la décris très bien, et tu mets tout le contexte, et tu parles, et tu fais ta recherche, et tu vas sur le terrain. Là, ils sont pas sur le terrain, ils font pas leur recherche, ils répètent ce que les Israéliens disent, c'est plus facile. Et comment tu peux être un journaliste ou un chercheur compétent si tu te bases sur un seul côté et tu n'écoutes pas l'autre? Et c'est ça qui me choque.
En lien avec ça d'ailleurs, ça me semble très important de le dire au moins une fois. La stratégie du gouvernement français, mais en phase avec ce que dit le gouvernement israélien et le gouvernement occidental de manière générale, consiste à faire passer l'idée qu'il y a d'un côté le Hamas et la population gazaoui qui est prisonnière elle aussi, politiquement, du Hamas. Alors que tout montre qu'ils ont voté pour, à tort ou raison, mais encore une fois, c'est pas à nous de nous en mêler, etc. Et s'ils le font, en haut lieu, c'est parce qu'ils veulent faire apparaître le Hamas comme un petit groupe politique qui n'a strictement aucune légitimité et aucune assise locale, aucune même assise historique, comme pouvait l'être, et je jette pas ici un débat sur les groupes d'extrême gauche, radicaux, comme Action Directe, etc., qui provoquaient des attentats, mais dont eux seuls étaient commanditaires et ils le faisaient qu'en leur propre nom et pas, en réalité, légitimés par la population, quelle qu'elle soit d'ailleurs, aussi bien en Italie qu'en France et ailleurs. Non, c'est pas un groupe isolé qui fait des actes terroristes en tant que tel. C'est dans un cadre de guerre, il y a des actes terroristes, comme le FLN a pu en faire, comme la France, lorsqu'elle était occupée, a pu faire dérailler des trains et des civils et des employés du rail sont morts. On se souvient du cinéma Les Variétés à Toulouse qui a été plastiqué et il y a eu des civils qui sont morts. Il y a un ensemble, même quand les Alliés bombardaient, eh bien, les points chauds des nazis, il y avait des morts civiles tout autour. Et qu'est-ce que disaient Pétain et son gouvernement? Les Alliés et les résistants français sont des terroristes. Ce que je veux dire par là, et le FLN évidemment, et je ne parle même pas de Nelson Mandela, qui a été terroriste dès qu'il est rentré en prison jusqu'à ce qu'il sorte, c'est dès qu'en 1986, où les États-Unis l'ont retiré de la liste des terroristes au niveau international, et ce fameux terroriste qui était Nelson Mandela était prix Nobel de la paix. C'est pour vous dire à quel point l'histoire marche complètement à l'envers dans cette affaire-là. Simplement comprendre que s'il y a des actes de terrorisme dans le cadre d'une guerre, eh bien oui, on doit en répondre à un moment donné, il n'y a strictement aucun problème, mais c'est bien dans le cadre d'une guerre en tant que telle. Et ce ne sont pas des actes terroristes d'une petite organisation esselée sans aucune légitimité politique. Voilà.
Peut-être Michel.
Je vais donner un petit exemple. Il faut regarder comment de qui sont composés les convois qui partent de Gaza vers le sud. Essentiellement de femmes et d'enfants. Ça signifie bien qu'on a affaire à une résistance populaire massive dans Gaza. Les hommes veulent défendre. Et alors, je veux juste raconter une toute petite anecdote qui est sans rapport, mais qui dit quelque chose de ça. Il y a, une amie à moi, libanaise, a un jour accompagné un journaliste, très peu après 2006, l'invasion du Liban, qui voulait aller dans le sud Liban, à Bint Ishbel, qui était un des hauts lieux de la résistance du Hezbollah. Et le mec arrive dans le village et il rentre dans une épicerie et il dit, bon, il achète un coca et puis il commence à discuter avec les gens de l'épicerie, il y avait plusieurs personnes et le marchand. Et au bout d'un moment, il leur dit, écoutez, j'aimerais beaucoup rencontrer des gens, des combattants du Hezbollah. Et ils se regardent tous et ils éclatent de rire et ils disent, bah vas-y.
Choisis.
choisi. C'était tout le village, tout Bintijbel, c'était des résistants du Hezbollah. Ça veut rien dire. C'est comme si en France ou en Europe, on avait perdu des notions élémentaires qu'on a connues quand on était dans la gauche de ma génération, de qu'est-ce que c'est qu'une résistance populaire. Et là, on a la résistance d'un peuple entier. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir isoler le Hamas de la Palestine? Comme si il y avait d'un côté le Hamas et de l'autre côté les pauvres Palestiniens. C'est les mêmes, qu'ils soient du Hamas ou pas. Je veux dire, tous les groupes politiques palestiniens sont dans la résistance pour la Palestine de mille et une manières, c'est tout.
D'ailleurs, en lien avec ça, c'est paradoxal. Une déclaration d'un des hauts responsables de l'armée du Sahel dit aujourd'hui la chose suivante. Tous les hommes, de toute façon, à Gaza, il faut les tuer parce qu'ils sont tous, Hamas. Voilà. Donc, ce qui n'était pas vrai hier, aujourd'hui devient ce que l'on dit depuis la nuit des temps. Voilà.
Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que l'Europe et la France soient dans une position de soutien vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de son gouvernement, de Netanyahou, tout ça? Quels intérêts ils défendent finalement?
On a l'impression que c'est une guerre de civilisation, ils le disent tous. C'est les civilisés contre les animaux. On est arrivé à un point, je veux dire, à l'époque de Mandela et le FLN, c'était pas global. Maintenant, ça fait comme si, ben voilà, c'est les mêmes du Bataclan. C'est les mêmes. Ils sont là-bas, ils veulent tuer les Israéliens qui veulent vivre. Comme si les Palestiniens ne voulaient pas vivre. Mais personne ne va chercher c'est quoi la vie d'un Palestinien de 20 ans. C'est quoi sa vie? Comment il vit? Est-ce qu'il vit comme un Parisien et voilà, il a envie d'aller tuer comme ça? Ben non. Il faut comprendre aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens vivent. Qu'est-ce que les gens...
De vouloir provoquer l'identification avec les jeunes en crop top en train de danser aux portes de Gaza.
Mohammed Deif qui a annoncé l'opération Al-Aqsa, il a dit dans son premier speech, bon, il a parlé au peuple, il a parlé à tous les peuples arabes, etc. Mais qui connaît l'histoire de Mohammed Deif? Personne. Mohammed Deif, il était acteur dans un théâtre, simple monsieur, qui vivait sa vie dans Gaza, en famille. Un bombardement a tué sa femme et ses enfants, et ses jambes sont parties, donc il est dans sa chaise roulante. Et ben, il a tout perdu, du jour au lendemain. Vous pensez que les gens sont normaux, comme un Parisien qui vit normal, et non, j'ai envie d'aller tuer? Non, le problème, c'est qu'on essaie toujours de parler de ce qui se passe en Palestine en rapport avec l'histoire de l'Europe. Ils les tuent parce qu'ils sont juifs, et ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est important que les gens le comprennent. Amira Haas, elle l'a bien dit, elle l'a bien défini. Arrêtez de dire qu'ils tuent, c'est pas l'Europe, c'est pas antisémite, c'est un colon qui est là, que le Palestinien voit, qui lui a tout pris, qui le laisse pas plus rentrer chez lui, qui a pris sa terre. C'est des gens qui sont allés dans nos maisons, qui sont installés dans la maison de mes grands-parents, où j'ai pas accès. Et ils sont rentrés avec des maisons meublées. Ils sont rentrés, ils se sont installés comme des colons. Et moi, ils m'ont expulsée dans des camps de réfugiés avec mes parents, et on a plus rien. Et on peut pas revenir, on peut toujours pas revenir. Donc je veux dire, l'injustice, elle continue depuis 75 ans. Elle ne s'est jamais arrêtée un jour, avec en plus des gens qui sont dans Gaza, enfermés, encerclés, qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent même pas respirer, qui ne peuvent parfois même pas aller à la mer. Ils ont la mer, parfois on tire sur eux. Et ça, c'est pendant la période de calme. L'idée européenne, on pense que c'est calme. Mais si je peux vous raconter des histoires des gens. C'est quoi le calme pour un Palestinien tous les jours? Et pas que à Gaza, même en Cisjordanie.
Et justement, on voit aussi les répercussions au niveau de la France, avec tout le débat autour du terme de terrorisme, la comparaison au Bataclan, au 11 septembre. Finalement, il y a toute une question autour du débat médiatique autour de ces termes. Et qu'est-ce qui fait qu'on parle de ça? Et de quoi on parle pas quand on parle de ça?
Je crois qu'il y a quelques éléments qu'on a donné déjà un petit peu ici, oui. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il puisse y avoir dans le cadre d'une guerre des actes terroristes, c'est pas nouveau. Le Milk Bar, par exemple, à Alger qui explose, il y a des civils qui meurent, ça fait partie des questions tactiques qui sont discutées au sein des organisations de libération nationale. Le FLN, y compris, était traversé par des contradictions. Donc, quel choix on fait? Parce qu'il y a aussi l'idée de se mettre aussi la société civile de l'autre camp, de notre côté. Donc ça a toujours été des débats au sein même de la résistance française lors de la Seconde Guerre mondiale. C'était vrai aussi en Afrique du Sud, où, pour parler que de Nelson Mandela, il y a eu plusieurs vies dans sa vie sur ces questions-là. Bon, et c'est vrai dans tous les mouvements de résistance, c'est vrai aussi en Irlande. Bon, on sait particulièrement que lorsqu'on doit lutter contre un ennemi qui est structuré, qui est l'oppresseur, qui a tous les moyens militaires, qui a y compris les appareils idéologiques, parce que c'est aussi une guerre idéologique, une guerre pas de médias comme aujourd'hui, mais il y a malgré tout une dimension idéologique qui existait aussi à l'époque, eh bien ces questions tactiques traversent ensemble des notions de résistance. Et de ce point de vue-là, nous on fera la nuance entre ce qui s'inscrit dans une guerre de libération avec le peuple comme légitimité, comme moteur de mobilisation pour la libération, et c'est le cas du peuple palestinien depuis 75 ans, et des actes isolés de groupuscules qui ne font que pour eux-mêmes, qui ne répondent que pour eux-mêmes, qui n'ont strictement aucune légitimité et qui peuvent ici et là provoquer des actes terroristes. Et évidemment que nous condamnons par ailleurs, il n'y a strictement aucun problème. Mais la dimension politique n'a strictement rien à voir, rien à voir. Et puis quand on a fini de dire ça, il faut ajouter qu'il y a aussi le terrorisme d'État. Ce que pratique Israël depuis 75 ans, c'est du terrorisme d'État. Alors, il est plus feutré dans son apparence parce que c'est eux qui contrôlent les apparences. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on coupe Internet à Gaza pour qu'ils ne puissent pas rendre compte de ce que fait Zahal, que seul Zahal soit en possibilité de livrer ce qu'elle veut livrer. Y compris Facebook, en 2021, avait empêché certains influenceurs, influenceuses, entre guillemets, de poster certaines vidéos qui montraient les atteintes aux droits de l'homme, les atteintes aux droits de la guerre, entre guillemets, qui étaient provoquées par Zahal. Donc, on fera la différence, évidemment, entre le terrorisme d'État, le terrorisme dans des cadres d'actes de guerre qui sont légitimés par une population qui demande à être libérée du joug colonial, et puis Daesh, l'État islamique, ces organisations que nous condamnons depuis la nuit des temps, et dont d'ailleurs les principaux pourvoyeurs sont les pays occidentaux, par les guerres qu'ils ont créées eux-mêmes en réalité. Parce que c'est ça la réalité. Il n'y a pas de discontinuité entre ce qu'ont pu faire les Américains et les tours qui explosent. Il n'y a pas de discontinuité entre la guerre au Libye et aujourd'hui Boko Haram et l'État islamique. Il y a des continuités très fortes entre cet impérialisme occidental qui détruit toutes les structures de résistance des peuples du Sud global et parfois même qui donne, ça a été dit, qui donne parfois, qui monnaie parfois ces groupes terroristes à un certain moment qui ne répondent que d'elles-mêmes.
Juste, oui, il va falloir qu'on laisse Mouzna y aller. Je crois qu'il est l'heure, oui.
Merci beaucoup.
Oui, merci à toi.
À bientôt.
Oui, à bientôt.
À bientôt. Merci encore. C'est ça. Et après, on passera sur Israël, sur le gouvernement et la situation politique sur place. Ouais. Alors, Dror, peut-être tu peux nous faire un point sur le droit international aussi.
Oui, pour compléter ce que disait Omar, tu traites plus du point politique, mais même en droit international, et j'ai assisté récemment à un exposé d'Amnesty International, le mot terrorisme n'existe pas, il n'a pas de définition en droit international. Le terme dont on parle là, c'est plutôt crime de guerre, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, parce que le Hamas est une armée en guerre, une armée populaire, mais une armée en guerre. Donc peut-être qu'elle commet des crimes de guerre, peut-être qu'elle commet des crimes contre l'humanité, il en va de même de l'armée israélienne, qui commet très probablement des crimes de guerre, peut-être des crimes contre l'humanité. Pour passer de l'un à l'autre, il faut que le crime soit répété et de façon préméditée et durable. Il me semble que c'est le cas aujourd'hui. Mais quand je dis « il me semble », c'est que justement, pour en avoir le cœur net, il faut qu'il y ait des enquêtes longues, des recoupements. En ce moment, on est incapable de faire ça. On est en plein dans l'émotion, on est victime de propagande de toutes les parties. Enfin, du côté israélien, c'est certain, du côté du Hamas, probablement, mais vu que la propagande du Hamas n'arrive pas en France, on n'en est pas victime. Donc c'est clair que l'image qu'on a, elle est probablement biaisé pour pas dire faux. L'organe qui traite de ces enquêtes, c'est la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, elle est encore en train de plancher sur les crimes d'Israël et du Hamas, d'ailleurs, de la guerre de 2008-2009. mais on ne la laisse pas faire son travail. Comme on disait tout à l'heure, les nations occidentales font tout ce qu'elles peuvent, entravent, s'opposent, mettent des bâtons dans les roues, votent des résolutions pour retirer des compétences, font changer les juges, et donc font tout pour que ces enquêtes n'aboutissent pas, font tout pour l'impunité d'Israël, qu'Israël ne réponde pas de ses crimes. Et pourtant, l'impunité d'Israël, c'est une des clés de cette guerre. Tant qu'elle peut faire ce que, tant que ce pays peut faire ce qui continue à faire comme avant, on restera dans ce genre de situation. Il y a un excellent article de Mona Chollet qui est sorti là, ces jours-ci, et elle termine en disant « pas de justice, pas de paix », c'est pas juste un slogan, c'est l'état des lieux, c'est la situation.
C'est un constat. Qu'il n'y ait toujours pas de paix. Est-ce que tu peux nous parler, Michel, de l'État d'Israël, qu'est-ce que c'est exactement, sur aussi les orientations politiques, d'extrême droite actuellement, beaucoup plus franchement, et aussi peut-être ajouter sur, est-ce qu'il existe une gauche un peu anticolonialiste en Israël ?
Il y a toujours eu un noyau de gauche anticoloniale en Israël. On va dire que la population juive israélienne, c'est à peu près 6 millions et quelques habitants. Donc, c'est disons le dixième, c'est ça ? Je suis nulle en maths, moi, de la population française. C'est pour donner une proportion. Donc, quand je dis qu'il y a 10 000 Israéliens anticolonialistes qu'on retrouve de manif en manif sur des lignes clairement anticolonialistes, ça voudrait dire 100 000 en France, d'accord ? Au-delà de ça, il y a toute une couche d'une partie de la population qu'on va appeler les sionistes de gauche, qui ne sont pas très clairs sur la question coloniale, évidemment. Mais j'ai presque envie de dire, il y a un matraquage de société. Moi, je suis frappée par le fait qu'il y a des choses qui ressemblent de plus en plus ici, en France, à ce qui se passe en Israël, puisque je connais les deux. Sauf qu'en France, je dirais, la différence, c'est la quantité de sang versé. En France, il y a moins de sang. Mais dans la pratique, moi, ça faisait des années que je me disais, mais un interview israélien à la télévision, on dirait un interrogatoire de police. On a maintenant des gens comme Léa Salamé, mais une liste entière, je veux dire, de gens qui font d'un interview à la télévision française un interrogatoire de police, où on est suspect d'avance et accusé et condamné par les journalistes. Ça fabrique des gens. La culture de la peur et de la sécurité, ça formate les gens. Ça les formate en France, la peur du terrorisme, la peur des attentats, la peur. Et ben ça les formate aussi en Israël. Et on arrive aussi en Israël, donc, à un gouvernement d'extrême droite. Hein, parce que, moi, ça me fait marrer quand j'entends dire qu'Ariel Sharon était centriste. C'est comme ça qu'il est défini. Alors, on est très très loin encore en avant d'Ariel Sharon. Maintenant, ce qui m'importe de dire, c'est que... Et ça m'importe parce que je pense qu'on ne s'en rend pas compte non plus ici. Et que la question, on a été tous ici soumis au terrorisme, est-ce que vous condamnez, est-ce que vous appelez ça du terrorisme ou pas, si vous appelez pas ça du terrorisme, vous êtes un monstre. On a tous passé cette étape-là. Il faut réaliser quelque chose qu'on ne réalise pas, justement à cause de cet écran-là de violence verbale, c'est le tremblement de terre que ça a été et que c'est en Israël. C'est un tremblement de terre. Et on est encore dans les ondes de choc. Les gens sont ébahi, sidéré par la violence de ce qui s'est passé sur eux, parce que c'était jamais arrivé, évidemment, dans cette proportion-là. Jamais d'incursion à l'intérieur, jamais d'incursion avec autant de victimes, avec autant de violence, jamais d'incursion avec une armée absente pendant les presque 48 heures, je veux dire, du début. Donc, des mythes qui se sont effondrés en une seconde. Le mythe de l'armée toute puissante, le mythe de la défense absolue de nos otages, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, et jusqu'à quand. Quand on a des gouvernements qui disent « les otages, on s'en fout, tant pis, ils vont faire passer la vengeance avant tout ». Tout ça, c'est un effondrement. Alors, ça part dans toutes les directions. Il y a une direction qui est absolument majoritaire, c'est la démolition du gouvernement en place. Ils le disent tous, à des degrés différents. Il y a aussi ceux qui disent la vengeance d'abord, et rendez-vous, ils disent, comment ils disent ? Rendez-vous à 6 heures après Gaza. C'est-à-dire d'abord on rase Gaza, et après on règle nos comptes. Ça, c'est l'extrême droite israélienne. jusqu'à l'extrême gauche. Si vous ne nous protégez pas, enfin, et avec au milieu les gens qui disent si vous ne protégez pas nos otages, c'est terminé. Mais derrière ça, je pense qu'il y a une angoisse existentielle qui est revenue, qui explique la violence aussi de beaucoup de réactions juives en France. C'est-à-dire, c'est pas sûr qu'on va pouvoir rester. On peut être détruit. Ce qui était une absolue... Ça n'existait pas avant, ça, dans la conte. Tout d'un coup, il y a cette prise de... C'est même pas une prise de conscience. C'est un coup de massue sur la tête. Notre position ici n'est plus garantie. Et donc, il y a aussi une grande majorité de tout l'arc politique israélien, avec des raisons différentes et de choses, qui disent il n'est plus possible de n'avoir qu'une solution militaire. C'est la fin des solutions militaires. Il faut une solution politique. Alors après, il y a tout l'arc, hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Mais c'est quand même une nouveauté. Et je ne peux pas le cacher, pour moi, c'est un espoir. Un espoir qu'à un moment, les gens... Moi, j'entends, hein, je lis des trucs israéliens sur Facebook ou des témoignages de gens qui disent « ça ne peut plus durer, on ne peut pas vivre comme ça. On ne veut pas vivre comme ça et on veut une solution honnête ». Disent-ils. Des gens, je pense à une fille de Berry, du kibbutz Berry, rescapée là du dernier attentat, et qui parlait de ça et que je suis en train de traduire. Elle dit on veut une solution honnête, une solution de paix honnête. Voilà.
Ouais, alors tout ça, on voit pas toute cette nuance-là depuis la France. Ce qu'on voit, c'est un peu une criminalisation des mouvements de solidarité. Je pense notamment à Gérald Darmanin là qui a annoncé dresser 11 articles 40, donc c'est la procédure pour apologie du terrorisme contre des organisations, des associations, partis, des individus, dont le NPA par exemple. Il y a la FI qui a été menacée de dissolution, le NPA aussi. Mais au NPA, à Révolution Permanente, pareil, le Parti des Indigènes de la République, il y a voilà, une procédure en apologie du terrorisme. Qu'est-ce qu'il en est de ce que je disais, cette criminalisation-là des mouvements de solidarité? Comment on peut exprimer sa solidarité?
C'est du terrorisme. De faire ça, c'est du terrorisme.
En tous les cas, ce qui est certain, c'est que on assiste en France à quelque chose de particulièrement singulier. Au niveau international, on a des mobilisations pro-israéliennes sans doute, j'ai pas suivi de près, pro-palestiniennes certainement, on les a vues, massives, banderoles déployées, drapeaux déployés, slogans hurlés, dénonçant les politiques d'extrême droite du gouvernement de Netanyahou, comme on aurait pu dénoncer d'une autre manière la politique d'extrême droite de Bolsonaro à l'endroit des indigènes, etc. Bon, on a une expression, j'ose dire une liberté d'expression qui en France n'existe pas, de fait. Et ça, c'est un signe mauvais de l'ère du temps. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que il y a un ensemble de dispositifs légaux qui se sont succédés les uns derrière les autres, où on ne peut plus aujourd'hui contester quoi que ce soit de la politique française, aussi bien pour les affaires intérieures, quand on parle des violences policières, j'espère qu'on fera le lien, parce que les quartiers populaires prennent cher doublement dans cette affaire-là, mais y compris sur les questions internationales. Voilà. Aujourd'hui, dénoncer le sionisme, le colonialisme, l'impérialisme, c'est traité d'antisémitisme. Ben, c'est ce que dit... Pas à demi-mot, c'est ce que dit la première ministre de ce pays-là, concrètement. Bon. Alors, à partir de là, évidemment, la situation devient très compliquée dans le cadre des mobilisations à mettre en place. Parce que, on le dit très clairement, aller se prendre une prune de 135 euros, voire faire de la garde à vue, alors que tu veux simplement dire que tu es en solidarité avec le peuple palestinien, point, voire trois petits points, chacun mettra ce qu'il voudra derrière, évidemment. Ça devient extrêmement compliqué. Et particulièrement quand tu es racisé, arabe, noir, des quartiers populaires où tu te fais serrer dès que tu sors du métro. C'est ce qui s'est passé jeudi dernier, c'est ce qui s'est passé samedi dernier, pour parler rien que de Paris, mais évidemment ça existe aussi.
Si tu n'es pas français, tu peux être expulsé.
Hein, oui. En plus. Bon. Et évidemment, des dispositifs assez particuliers, quand tu es en situation de précarité administrative, tu peux te faire expulser pour des propos soi-disant antisémites, alors que dans bien des cas, on conteste la politique antisioniste. Ça, c'est le contexte dans lequel on est en France. Cette absence de liberté d'expression, et d'un certain point de vue, oui, ça opère, toute proportion gardée avec ce qui se passe évidemment du côté d'Israël, mais de la terreur d'État, évidemment.
C'est-à-dire que l'État ou le français aujourd'hui terrorise un grand nombre de citoyens, citoyennes, et ça fait partie de toute la stratégie idéologique. On ne veut pas faire entendre une autre voix que celle des médias mainstream qui relaient le Quai d'Orsay et les pouvoirs en place. Et donc, pour dire très clairement, ceux et celles qui sont au fin fond du Larzac, il n'y a pas de, de vision péjorative en quoi que ce soit, mais qui ne sont pas en phase avec les réalités obligatoirement des quartiers populaires où d'ailleurs où il y a une empathie très forte à l'égard de la question palestinienne, eh bien le seul canal d'information, c'est celui de ces grandes chaînes, sans possibilité de voir autre chose, y compris sur les réseaux sociaux, ça commence à être de plus en plus compliqué. Donc ces menaces, évidemment, elles sont extrêmement graves. 750 amendes à 135 euros. C'est ce dont se targue actuellement le gouvernement de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, évidemment. Au contraire, on va voir quel type de stratégie on va adopter. Mais tout ça, on dit long sur le gouvernement français, bien davantage que sur l'état de l'antisémitisme en France. Je le dis comme ça. C'est-à-dire que là, on assiste à une fascisation de l'État français, très concrètement, avec l'ensemble de ses instances, de ses structures, en direct. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici et là des actes antisémites que nous condamnons, mais sans le moindre bégaiement, parce que nous avons des boussoles politiques en ce qui nous concerne. D'ailleurs, on le dit tellement bien que nous condamnons aussi quand, en 2021, a été alors gravé dans le marbre cette loi en Israël qui fait que Israël est devenu l'État-nation du peuple juif. Du peuple juif. Mais en 2021, ça a été gravé ensuite dans le marbre. Cette loi-là a été gravée ensuite... Je crois que c'est important de préciser qu'il y a une dimension qui relève de la manipulation idéologique très très forte et qui empêche évidemment de pouvoir s'exprimer politiquement dans ce pays-là. Mais encore une fois, on ne va pas s'en laisser compter, quoi.
Mais on a perdu énormément de démocratie en France, on le sait très bien. Enfin, je veux dire, déjà en 2014, hein, les manifs étaient interdites par Cazeneuve.
Oui, un ensemble de 2014. Vous vous rappelez, c'était l'opération plomb durci de mémoire. Ça a été une dinguerie, ça a été interdit. Alors, pour dire concrètement, les jeunes sortaient des quartiers, ils arrivaient sur les métros, ils se faisaient alpaguer. C'est parti en vrille à Barbès, ça manifestait dans tous les coins de rue. Parce que il y avait de quoi faire. Et puis après, ça s'est reproduit en 2021, etc. Je dis 2021 pour la loi parce que la Cour suprême a validé cette loi de 2018. D'accord. Ça a été validé par la Cour suprême.
On a eu les interdictions en 2014, mais on a la répression de la révolte des Gilets jaunes qui, à mon avis, fait date en France. On a, quand 1000 sondages montrent que 80% des Français sont contre la réforme des retraites, elle passe quand même avec des manifestations réprimées qui faisaient peur aux gens. Moi, je rencontrais plein de gens en sortant des manifs où on avait peur de se faire nasser, frapper, etc. Je rencontrais plein de femmes, souvent, qui disaient « Moi, je m'en vais, je ne peux plus manifester. » Le 1er mai, on n'a pas réussi à manifester. Donc, il y a une reprise en main absolument antidémocratique en France, qui en plus, avec ces positions-là sur la Palestine et Israël, rejoint le front du néoconservatisme. On n'est même plus dans l'ultralibéral, on est dans le néocons. Mais alors, on va tous le payer. Je veux dire, on le paye dans tous les droits de nous, comme citoyens français, d'avoir le droit à l'exception.
À l'expression.
Le droit à l'expression, j'aime beaucoup mes lapsus. Et d'ailleurs, l'UJFP aussi est menacé par la LICRA. Qui nous traite de salopards.
Forcément, ces attaques qui visent des petits groupes d'extrême gauche visent à faire peur aux autres, visent à faire peur à l'AFI, visent à faire peur aux organisations de gauche ou même aux individus. On a certaines organisations de gauche qui sont tétanisées, qui s'expriment pas, qui s'expriment du bout des lèvres. Des intellectuels, il y en a peu qui osent s'exprimer aussi. Et en fait, on a l'impression que voilà, qu'il y a eu un mot d'ordre de l'État. Il faut qu'on dise ça. Et si on dit quoi que ce soit d'autre, on est montré du doigt.
La menace qui pèse sur le NPA et sur la LFI, parce qu'elle est dans le collimateur, on a quand même une opération qui vise à annihiler les structures de la gauche dans ce pays. Quand il y aura plus de partis politiques de gauche dans ce pays, eh ben, on sera en face de Macron qui nous dira c'est moi ou le Front National. Tout en mettant dans la main des citoyens qu'il y a de moins en moins de différences avec le Front National. Le Front National qui était à la manif du CRIF, avec Roussel, du PC. Peut-être que ce sera le PC qui dirigera la gauche française demain.
Pardon d'ajouter un point pour nous important, pour nous fondamental. Avec la loi séparatiste, on a commencé par viser une communauté en particulier. On a dissous la plus grosse association antiraciste de France et d'Europe en termes d'adhérents à un moment donné, qui était le CCIF. Baraka City a été dissous. Un ensemble de structures de ce type-là, d'obédience, pas toujours musulmane, parce que CCIF, ça devrait, il fallait pas être musulman pour être dedans. Il luttait contre l'islamophobie, donc il y avait des juifs, des chrétiens, des athées, des agnostiques, tout ce qu'on veut, et des musulmans sans aucun doute, mais c'était pas dans leur statut ou quoi que ce soit. On a dissous ceux et celles qui s'opposaient justement à cette islamophobie d'État, cette islamophobie structurelle dans ce pays-là. Et puis après, on s'est attaqué évidemment aux mouvements écologistes, les éco-terroristes, ce sont des termes, la terminologie qui est employée de manière assez usuelle, et puis avec cette loi séparatiste, à toutes les structures associatives qui ne respecteraient pas l'ordre en tant que tel, ça veut strictement rien dire, ce qui fait que le préfet peut fermer le robinet des subventions, casser une porte ici d'une mosquée à n'importe qui. Voilà pourquoi s'est constituée très récemment une structure qui regroupe 200 organisations politiques, syndicales, associatives, et y compris des quartiers populaires, qui ont manifesté notamment le 23 septembre contre le racisme systémique, mais aussi pour nos libertés publiques, entre autres, et contre les violences policières. Eh bien, c'est l'ère du temps. Je rappelle simplement au passage que la LDH a été montrée du doigt du point de vue de ses subventions parce que, selon certaines, il ne serait pas le doigt sur la couture par rapport à je ne sais quel propos qu'ils auraient pu ou quels écrits ils auraient pu avoir. Nous sommes tous et toutes visés de ce point de vue-là. Simplement, il commence par certains pour finir par tous et toutes. Voilà pourquoi il n'y a pas de débat entre nous. Nous sommes solidaires de toutes les organisations que le gouvernement veut dissoudre. Parce que la question qui nous intéresse ici n'est pas de savoir ce qu'a pu dire le NPA, la LFI, RP, le PIR, ou le syndicat CGT, la LDH, ou le JFP, ou telle association de quartier, parce que celles-là sont souvent invisibilisées quand on coupe les robinets. C'est de dire que le principe de dissolution, ce principe administratif, est évidemment derrière ça un principe politique, consiste, comme tu l'as dit, à empêcher toute velléité, toute possibilité de contestation de l'ordre en soi. Donc nous avons tous et tout intérêt à être partie civile dans les dissolutions à venir si des fois on va au tribunal.
Bah sinon, c'est la phrase du pasteur Wagner, là, la fameuse. Il ne restera personne pour nous défendre.
Hein. Et je rappelle que BDS dans cette affaire-là, parce qu'on est aussi pour BDS, pardon de le dire, parce que ça fait quand même 10 piges où on a été traînés dans les tribunaux à chaque fois qu'on appelait au boycott d'Israël, concrètement boycott des investissements, oui. Sanctions. Nous avons tenu le cap, nous avons tenu la boussole jusqu'en 2020, l'arrêt du 11 juin 2020, où la CEDH a condamné la France. Voilà, ça a été un coup d'arrêt. Et où on peut le dire, je ne sais pas où sont les caméras ici, mais on le dit là, voilà, il faut boycotter Israël. Il faut boycotter, évidemment, on appelle au boycott des épreuves sportives, culturelles en Israël, dès lors qu'il y a le sceau du gouvernement et de l'État israélien. Voilà, donc BDS doit, c'est une des réponses, d'ailleurs on y reviendra sans doute, mais c'est un des leviers pour pouvoir répondre à la période actuelle.
Et j'ai envie d'ajouter juste une phrase à ce que tu viens de dire.
Donc il y a cette campagne dont fait partie notamment aussi l'UGFP, Solidaire aussi. Est-ce qu'on peut aussi présenter ce que c'est que la campagne BDS ?
Si, mais juste une phrase avant pour terminer sur ce qu'il a dit, parce que je pense que c'est important. La Cour européenne de justice donc, a donné raison aux militants du BDS qui avaient été condamnés en France. La France n'obtempère pas. Elle doit reconnaître ça et par un autre décret, etc., qu'elle ne publie pas. Ce qui est antisémite, c'est de laisser faire Israël. C'est de le pousser au crime en l'encourageant. Parce que quand il aura été avéré, si, et j'espère que non, vraiment, il est avéré que le gouvernement israélien a réussi son opération, soit de deuxième Nakba et d'expulsion de toute la bande de Gaza, soit de génocide, parce que si on arrive à tuer 1 million de personnes ou plus, on sera dans le génocide. Alors, les gens qui auront gagné, ce seront les gens qui auront réussi à faire entendre qu'il y a une boucle qui se referme, et que les Juifs soi-disant victimes du... Enfin, pas soi-disant, que les Juifs victimes du génocide sont capables de reproduire un génocide. Il y a ça dans l'inconscient européen, j'en suis convaincue. Et ça m'amène à dire que quand on est dans le BDS et qu'on exige que soient appliquées les sanctions de la loi internationale contre un pays qui les viole tous les jours, on n'est pas antisémite. Quelque part, on essaye de préserver ce qui reste d'humanité dans ce gouvernement colonial pour qu'il rectifie le tir et que la partie coloniale de ce régime soit transformée.
Justement, on va peut-être continuer là-dessus avant de revenir sur la campagne BDS, parce que il y a toute une stratégie de l'État d'Israël d'associer antisionisme et antisémitisme avec à l'époque la circulaire Alliot-Marie, et je voyais Sylvain Maillard, qui est le président des députés Renaissance, qui revenait là-dessus, et il y a toujours cette stratégie-là, cette volonté d'associer antisémitisme et antisionisme. Et je vois même, on parlait des sionistes de gauche tout à l'heure, des sionistes de gauche qui disent il faut abandonner le terme d'antisionisme. Est-ce qu'on peut parler un peu de tout ça?
Quand même, franchement. Oui.
Est-ce que peut-être, Michel, tu veux continuer là-dessus?
Je veux bien, parce que il se trouve que le 12 octobre, oui. C'est-à-dire avant-hier, c'est ça, vient de sortir un livre chez Sileps qu'on a publié avec deux autres camarades de l'UJFP, Béatrice Aurès et Sonia Feynman, et qui s'appelle Antisionisme, une histoire juive. Et ce livre est une forme d'anthologie, c'est un recueil d'une cinquantaine de textes qui couvrent un siècle d'histoire du sionisme et qui rappellent que ce sont les juifs qui ont été les premiers opposants au sionisme, parce qu'ils étaient les premiers visés par le sionisme, évidemment. Et que quelles que soient les obédiences, on retrouve des juifs antisionistes dès le début du sionisme, mais jusqu'à aujourd'hui, que ce soit chez les religieux, que ce soit chez les internationalistes, que ce soit chez les libéraux ou les démocrates. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des réponses dans ce livre et qui sont importantes à entendre. Il y a des gens qui dénonçaient les risques du sionisme et qui parlaient des massacres qu'il risquait de produire et de la mise en danger, y compris des populations juives. Et il y a des gens aussi, toute la dernière partie de ce livre, qui s'appelle « Le sionisme et après », ce sont des juifs, des universitaires, des gens de différentes époques et de différentes obédiences, qui ont cherché et qui cherchent toujours des solutions. Comment on sort de cette horreur, finalement? Parce que c'est une horreur. Et que les peuples qui sont en ce moment entre la mer et le Jourdain, ils sont condamnés soit à vivre ensemble, sur des bases tolérable, supportable, donc d'égalité et de justice, soit à mourir ensemble. On n'est pas loin du suicide, là, pour les Israéliens, et pas loin de l'anéantissement pour ces populations-là. Donc, moi, je pense que c'est très important de maintenir la définition de l'antisionisme comme différente de l'antisémitisme. Et le boulot qu'a fait Maillard, c'est encore une fois, on voit comment cette propagande-là, Elle s'étale dans le temps et elle prépare les mentalités. C'était avec la définition de l'IHRA, l'Institut de l'Alliance, l'Alliance pour la, bref, j'arrive pas à le dire, pour la reconnaissance de l'Holocauste. Elle servait à quoi? Elle servait à étendre la définition de l'antisémitisme à des choses qui n'ont rien à voir avec lui et à l'imposer. État par État. Ça a été le boulot de Maillard en France, arriver à l'imposer. La ville de Paris a été une des premières à adopter ce type de définition. Élargit la définition de l'antisémitisme de quelle manière? En disant, si vous attaquez Israël, au fond, je vais la faire simpliste, vous êtes antisémite. Eh ben non. Il y a des juifs qui n'ont rien à voir avec Israël. Et il y a des juifs qui revendiquent la justice pour tous dans cette zone du monde.
C'est tout. Moi, il y a un truc qui me saoule dans cette affaire-là, mais enfin qui nous saoule tous. C'est la nécessité de devoir montrer patte blanche, si j'ose dire, parfois au sens propre du terme, quasiment, dès lors qu'on s'attaque à un conflit impérialiste, colonial, etc., de manière régulière. Bon, et là, en l'occurrence, la tarte à la crème, le truc le plus facile, quand on a une posture antisioniste, c'est dire « vous êtes antisémite ». Ouais, si tu veux, vas-y. Si tu veux, dans le sens d'où, pas du tout. Mais au bout d'un moment, on arrête, on n'est pas là pour faire, je vous le dis très clairement, dans les quartiers populaires, on n'est pas là pour faire de la psychologie et de la rééducation mentale à ceux et celles qui ont décidé d'imposer des grilles de lecture sur ceux et celles qui sont descendants ou héritiers d'immigration. Certains disaient, dans les quartiers, ils sont biberonnés à l'antisémitisme. Non, non. Le mouvement des travailleurs arabes, les luttes indépendantistes à l'époque, sont évidemment partie liée à la lutte pour l'indépendance de la Palestine depuis très très longtemps, c'est vrai. Mais à l'antisionisme, peut-être biberonné, je suis pas sûr, mais à l'antisémitisme, certainement pas, pour les raisons qui ont été évoquées précédemment. Donc au bout d'un moment, notre problème n'est plus de cet ordre-là. Notre problème, c'est qu'on voit aujourd'hui à Gaza des enfants qui sont obligés de marquer sur leurs mains leur nom, leur prénom,
l'adresse, leur numéro de téléphone pour être identifiés s'ils meurent lors des trajets, notamment lorsqu'ils sont amenés à quitter vers le sud global. Pardon de le dire, sans dire que l'histoire se répète et bégaye pas du tout. Mais il y a des symboles qui sont extrêmement forts. Mettre des numéros sur la peau, pardon de dire, que ça relève évidemment de la déshumanisation qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui. Et c'est pas pour rien que des hauts responsables sont capables de dire que ce sont des animaux. C'est-à-dire, dès lors qu'on convoque le bestiaire comme langage, eh bien, évidemment, tout est ouvert derrière. Et le problème, pour dire clairement à ceux et celles qui nous dirigent, hein, s'ils veulent nous poursuivre pour antisémitisme, on se retrouvera dans les tribunaux. Et sur les bancs des accusés, on fera résonner la voix de ces enfants à Gaza. Pas obligatoirement la démonstration que nous ne sommes pas antisémites, etc., parce que nous sommes très clairs là-dessus. Depuis la nuit des temps, ça a été dit par Michel et par beaucoup d'autres. Nous sommes sans aucun doute peut-être les meilleurs garants de l'antiracisme politique ici, qui inclut la lutte contre l'antisémitisme. On bégaye pas là-dessus, on est même, je le dis très contrairement, l'avant-garde là-dessus. Il n'y a strictement aucun problème. Et pour dire même encore clairement, s'il n'y a plus nous, il n'y a plus rien, ça a été dit d'une autre manière, mais en gros, s'il n'y a plus la dimension politique que nous structurons ici dans nos luttes pour la Palestine, toutes les grilles de lecture politique que nous mettons en avant, les lectures anti-impérialistes, les lectures historiques, etc., eh bien évidemment, on va être uniquement sous le coup de l'émotion, des raccourcis, des délires complotistes qu'il y a sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que ça existe. Nous luttons, nous, contre les délires et les postures soraliennes, contre Dieudonné et sa bande, etc. Nous, on sait que eux, ce sont des ennemis de la cause du peuple palestinien. On le sait depuis très longtemps, et quand ils arrivent dans les manifs, eh bien, on les tège. On les tège, on ne bégaye pas, on les tège. On a un service d'ordre qui fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas la première fois qu'on le fait, on l'a fait, etc., régulièrement. Nous disons simplement qu'à force d'agiter ce chiffon de l'antisémitisme, on finit par détruire ce qui a été historiquement l'antisémitisme d'un point de vue structurel dans ce pays-là. Et on n'est pas à l'abri, et on le dit très clairement, avec la fascisation qui est en route, Le Pen demain, présidente, cet antisémitisme ô combien séculaire qui succède à l'anti-judaïsme, parce que la France, pardon de le dire, a une histoire particulièrement marquée, qui aujourd'hui est en train de se déculpabiliser en nous faisant regarder ailleurs, eh bien, tout ça est à l'ordre du jour. Et on dit à nos frères et nos sœurs juifs et juives, dès lors qui partagent avec nous la grille de lecture anti-sioniste, nous avons des combats à mener ensemble contre toutes les extrêmes droites de ce monde, aussi bien en Israël que dans ce pays-là. Et c'est ce que nous faisons avec nos frères et nos sœurs, nos camarades de l'UJFP, et sans aucun doute de ceux qui ne sont pas l'UJFP, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans les lignes que nous défendons.
Oui, alors justement, il y a des manières de montrer sa solidarité qui soit qui soit pas ce que tu dénonces là, c'est-à-dire des façons antisémites, complotistes, etc., et qui soit aussi à côté de la résistance armée palestinienne. Je repense à la campagne BDS que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut venir plus précisément sur qu'est-ce que c'est que cette campagne ?
Ouais. Oui, c'est une campagne qui est issue d'un... C'est très important pour moi de commencer par ça. C'est un appel qui vient de Palestine, qui date de 2005. C'est les Palestiniens qui demandent une solidarité dans le monde entier, qui demandent « aidez-nous à faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il respecte le droit international ». Et je commence par là parce que ça veut dire que si nous, en France ou dans le reste du monde, on répond à cet appel, c'est une campagne qui est anticoloniale dans son essence, puisqu'elle répond à un appel et elle s'établit sur des termes décidés par les colonisés. Cet appel demande donc le respect du droit international, qu'on peut résumer en trois points essentiels. Et c'est important de dire, parce que je pense que c'est aussi la clé de ce qu'on vit en ce moment. Si ces trois points minimaux avaient été respectés depuis 10, 20, 30, 50, 70 ans, on n'en serait pas là. Libération des terres occupées depuis 1967. Donc, je répète, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, c'est très important. Et puis, on peut rajouter le Golan, même si c'est une affaire syrienne, mais on va rajouter le Golan qui est occupé depuis 1967. Égalité de tous les citoyens sur ce territoire, c'est-à-dire fin de l'apartheid. Ça, c'est le droit international, c'est même le béaba. Et puis, retour des réfugiés. C'est même pas le droit au retour. Le droit, ça fait longtemps qu'il est là. C'est le retour effectif des réfugiés dans leur maison. Et dans leur maison, ça veut dire en territoire, de Cisjordanie et Gaza, mais aussi en Israël. Et ça, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, mais c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez dit tout à l'heure. On dit, oui, on parle pas, tu disais, on parle pas assez de décolonisation ou de colonisation. Mais en fait, même quand on en parle, j'ai l'impression que parfois, on n'en parle pas très bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a compris? Que si Israël, faut qu'il décolonise, ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse de la place un peu. Il y a des villages autour de Gaza, tu dis, c'était des villages palestiniens. Ashkelon, c'était une ville palestinienne. Donc, si les réfugiés rentrent chez eux, ben oui, il va falloir non pas exterminer, ni tuer, ni même blesser le moindre Israélien, mais il va falloir faire de la place. C'est décoloniser, c'est aussi perdre un peu de ses privilèges. C'est ça qui est dur à entendre.
Il y a des études qui ont été faites là-dessus par des Palestiniens. Oui. D'ailleurs, Salman Abou Sitta, pour ne pas le citer, qui est un architecte. Qui a écrit là-dessus, sur la place, elle existe, la
place. Et qui d'ailleurs, oui, paradoxalement, dit qu'en fait, très souvent, les Israéliens ont construit leur ville à côté des ruines du village palestinien. Donc en fait, il y aurait la place pour reconstruire le village palestinien avec les deux.
Un million de Russes, dont 800 000 non-juifs, donc ils peuvent bien accueillir 1 million de réfugiés qui le souhaitent. Ouais.
Donc retour des réfugiés, égalité totale, donc fin de l'apartheid, et libération des terres colonisées. Juste pour terminer, pour ces trois demandes, bon, alors j'aime bien dire ces trois, il y a trois populations palestiniennes, les Palestiniens d'Israël, les Palestiniens de Cisjordanie, Gaza, et les Palestiniens à l'extérieur. Trois demandes élémentaires et trois façons d'y arriver, donc BDS, donc sanctions, si seulement les États pouvaient appliquer les sanctions que le droit international réclame sur un État, l'État d'Israël, quand il est convaincu d'avoir de ne pas respecter le droit, de commettre des crimes de guerre, de violer des résolutions de l'ONU. Malheureusement, les États ne le font pas. Alors, demander aux entreprises de désinvestir, donc le D, de ne pas investir, de pas faire de l'argent sur finalement le dos des Palestiniens en enrichissant Israël. Et là, par exemple, on peut prendre la campagne en ce moment qui a lieu contre Carrefour, les supermarchés Carrefour qui, bon, comme tous les supermarchés, vendent des produits israéliens dans leur magasin. C'est pas le pire, c'est un problème, mais c'est pas le pire. Maintenant, ils font pire, ils vont carrément créer des partenariats avec des supermarchés, pas seulement en Israël, mais dans les colonies illégales des territoires occupés, pour vendre leurs produits. Et j'ai vu sur Internet, j'espère que c'est pas un fake, mais je crois pas, que Carrefour Israël, donc la branche israélienne de Carrefour, vient de faire des paniers pour offrir des petits packages pour offrir aux soldats qui vont héroïquement bombarder du haut de leur avion en appuyant sur un bouton, éradiquer des familles entières avec des avions qui sont par ailleurs payés par nos impôts et ceux des Américains. Donc demander à ces entreprises de se désinvestir et puis demander à nous, citoyens, parce que finalement les entreprises nous écoutent pas, de boycotter tous les produits israéliens, de boycotter les manifestations sportives ou culturelles israéliennes. Ça veut pas dire les artistes israéliens, mais les manifestations qui ont le tampon de l'État d'Israël dessus. Et voilà, c'est principalement ça, boycott, désinvestissement et sanctions. Omar, tu veux rajouter quelque chose?
Un point important, tu l'as dit, mais c'est pas grave, on dit deux fois, c'est la pédagogie, il faut souligner, c'est un truc fondamental. C'est le côté prof. Non, mais c'est un truc qui est fondamental. BDS est une campagne pacifique en lettres majuscules. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, quel que soit le type d'opposition à l'État d'Israël, qu'elle soit sous sa forme armée ou sous ses branches armées, ou d'opposition de résistance là-bas, ou même pacifique, tout est contesté par l'ensemble des gouvernements occidentaux pour aller vite. Parce que ces accords commerciaux entre l'Union européenne et Israël, qui sont pas rien, ce sont des accords commerciaux très avantageux, et qui d'ailleurs sont contradictoires avec les accords eux-mêmes, notamment un des articles qui dit en gros que si les droits de l'homme ne sont pas respectés, eh bien ça met fin aux accords. Mais enfin, l'État d'Israël est sans aucun doute la nation qui au jour d'aujourd'hui respecte le moins les accords internationaux concernant les droits de l'homme, les droits des femmes, y compris même le droit de guerre, etc. Eh bien, ces accords-là ne devraient plus exister entre l'Union européenne et l'État d'Israël, donc on les dénonce évidemment de manière pacifique, et pour autant on se fait traîner en justice. C'est ça la réalité. Et c'est pas dans n'importe quel contexte, que c'est en 2005 évidemment, c'est aussi une année après que la Cour internationale de justice a condamné le mur, ce mur de la honte, ce mur érigé sur 75% par ailleurs du territoire cisjordanien, même pas sur la ligne verte, même si pour nous la ligne verte est complètement ahurissante du point de vue de la construction historique, mais ce mur qui concrètement, que les gens comprennent bien, c'est des paysans, pour des milliers de paysans, ça veut dire ne plus
accéder à leurs terres agricoles lorsqu'ils habitent de l'autre côté du mur. Ça veut dire des familles coupées en deux, ça veut dire des infrastructures qu'on ne peut plus rejoindre. C'est ça, ce mur scandaleux, ce mur de l'apartheid, en particulier dénoncé une année après. Eh bien voilà, le BDS est aussi la démonstration que même lorsqu'une mobilisation pacifique existe, eh bien, elle est condamnée, elle est poursuivie en justice régulièrement par la France.
Peut-être Michel aussi.
Oui, je voudrais rappeler que dans l'appel palestinien du BDS, il se réfère à l'Afrique du Sud et à la campagne contre l'apartheid sud-africaine. Est-ce que pendant la campagne contre l'apartheid d'Afrique du Sud, on a considéré que les gens qui boycottaient l'Afrique du Sud étaient des anti-blancs ? Est-ce qu'on a considéré que cette campagne avait pour aboutissement le fait de jeter tous les blancs d'Afrique du Sud à la mer ? Non. La campagne BDS, elle est beaucoup plus exigeante que la campagne contre l'apartheid d'Afrique du Sud. Par exemple, elle refuse absolument de sanctionner par un boycott tout artiste israélien qui viendrait sur le territoire français, à condition qu'il ne représente pas... C'est les institutions israéliennes qu'on boycotte. Et dans les artistes israéliens, par exemple, ou dans les intervenants israéliens, on dit... un type qui ne s'est jamais prononcé politiquement sur la question, tu me corrigeras si je dis une bêtise, hein, parce que j'ai peur d'être imprécise, on l'embête pas, quoi.
C'est pas pour te corriger, mais à ma connaissance, il y a juste un artiste qu'on a un jour appelé au boycott, parce que lui, il est vraiment porte-parole de l'armée israélienne. Voilà. Mais les artistes qui, sans doute, sont pour leur gouvernement, c'est pas suffisant pour les boycotter.
C'est ce qu'ils disent, exactement. Il faut vraiment que l'artiste qui vient se considère lui-même comme un porte-parole du gouvernement, ce qu'ils appellent les ambassadeurs de la paix. Vous savez, je crois qu'il est le seul, effectivement. Donc, il y a énormément de précautions prises, mais ça n'empêche que la campagne contre le BDS taxe immédiatement cette action, qui est une action pacifique, comme ça a été dit, et non violente, et plutôt saine dans ses bases et dans sa conception, d'action antisémite. Mais en fait, moi, je pense que c'est le travail inverse qui est fait. C'est une action populaire qui permet à chacun... de s'exprimer, justement, dans un contexte où le droit, la liberté d'expression n'est pas possible. Moi, je me souviens avoir vu au marché, sur mon marché, rue d'Aligre à Paris, après 2014, des gens, mais vraiment pas des gens politiques, hein, des gens en train de faire leur marché, et une dame, elle disait « sont belles, c'est Clémentine ». Oh ouais, non, enfin, franchement, Jaffa, faut pas exagérer, quoi. On arrête. Les gens pouvaient plus supporter de consommer des choses qui étaient pleines de sang, finalement. Il y a une logique, et je crois que les consommateurs, ils font attention aujourd'hui, on fait attention. On ne consomme pas n'importe quoi. On ne consomme pas les produits de cette violence coloniale sur une population désarmée et livrée à ça, quoi.
Alors, peut-être pour terminer, avec tout ce qu'on a dépeint comme tableau, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en France ? Comment on va pouvoir construire une solidarité ?
D'abord, concrètement, la solidarité, même si elle prend pas corps en tant que telle, elle existe. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens en France qui ne sont pas d'accord avec la voix de Macron, de son ministre d'Intérieur Darmanin, et puis de toutes ces officines sionistes et du gouvernement israélien. Il y a, tout le monde ne colle pas sur BFM et CNews, ils prennent des notes, tout va bien. Il y a, en soi, des contestations. Le problème que l'on a, pour les raisons qu'on vient d'évoquer ici, c'est que mettre tout ça en musique devient extrêmement compliqué. Parce que, structurellement, c'est compliqué d'appeler à une mobilisation. Nous sommes aujourd'hui lundi, on va dire. Bon, mais la veille, dimanche, on devait distribuer un tract, on devait distribuer ça au marché d'Argenteuil, ça. En demandant aux gens, imprimez le drapeau, nous on vous le donne, mais imprimez-le, mettez-le aux fenêtres, mettez-le à vos fenêtres. Vous ne pouvez pas manifester, c'est compliqué, on manifestera quand même, mais marquez votre solidarité en mettant plusieurs drapeaux en format A4 ou A3 à vos fenêtres, prenez-vous en photo, mettez ça sur les réseaux sociaux, etc. Bon. Eh bien, on avait fait une déclaration comme on fait à chaque fois, l'Association Argenteuil Solidarité Palestine, on a reçu un arrêté qui nous vient du préfet, je vais vous l'épargner. Mais le contenu, c'est quoi ? C'est... on estime que vous n'êtes pas en mesure de le faire parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public, parce que on pense que vous allez avoir des propos en faveur du peuple palestinien. Mais oui, oui. En fait. Oui. Mais oui,
Mais depuis quand ça peut être attaquable, cette affaire-là? Alors, non, mais ça devient sidérant. C'est qu'au bout d'un moment, on ne veut même pas partir en justice. Simplement, on le montre aux gens. On va mettre ça sur les réseaux sociaux pour comprendre dans quel état on vit. C'est qu'aujourd'hui, dire qu'on est en faveur du peuple palestinien, eh bien, ça veut dire que, de fait, on devient des gens complètement, complètement ouf à poursuivre et ça en justice. Alors, on le dit. Un des axes de la campagne, c'est pas le seul, hein, mais c'est une campagne nationale que nous lançons avec plusieurs associations, syndicats et des Palestiniens, Palestiniennes, il faut le dire qu'il faut peut-être commencer par ça, c'est de montrer, visibiliser, pas que dans les quartiers, y compris dans les zones rurales, partout, d'imprimer le drapeau palestinien en format A3 et de le mettre à ses fenêtres, à son balcon, quand on a une fenêtre, parce qu'on sait bien que c'est compliqué aujourd'hui pour certains, certaines, mais marquer sa solidarité. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on porte un kéfi, on peut se faire interpeller par les flics dehors. Vous savez, il y a une police du vêtement qui a pas simplement fait saigner celle qui portait la abaya, mais y compris ceux et celles aujourd'hui qui portent un kéfi ou qui portent un signe distinctif de solidarité avec le peuple palestinien. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ça a été dit, on le dira jamais assez, boycotter, boycotter, boycotter Israël, rejoignez la campagne BDS, allez sur le site BDS, et en plus, ça marche. C'est-à-dire qu'on fait reculer, ici et là, des grandes instances sur cette question du boycott, parce que évidemment, il y a une dimension d'image qui joue. Et la troisième chose, il va y avoir des meetings, des rassemblements, eh bien, venez au meeting, venez au rassemblement. Actuellement, il y a eu 750, on disait, amendes à 135 euros qui sont tombées hier, avant-hier, samedi. On est en train de faire, avec un groupe d'avocats, un recours au Conseil d'État pour faire tomber toutes ces amendes-là. Peut-être qu'on gagnera, peut-être qu'on gagnera pas, mais en tous les cas, on essaiera de rassembler toutes nos forces. Et des coordinations existent à Marseille, à Lyon, à Lille, à Paris, qui regroupent des syndicats, des associations, des structures d'organisations palestiniennes, pour essayer de faire entendre une autre voix et donner des modalités d'action concrètes.
Comment rejoindre la coordination parisienne au moins ?
Eh bien, pour rejoindre la coordination parisienne, le mieux c'est de passer, par exemple, par les voies des associations qui sont, donc par BDS, par vos syndicats qui sont partie prenante de la course ici. Par exemple, il y a Solidaire, il y a Droit avec Solidaire, donc on peut s'adresser à ces structures-là. Mais il y a aussi des partis politiques, l'ONP en fait partie, des associations palestiniennes. Quand habite Argenteuil et les régions, ben, Argenteuil Solidarité Palestine, il vaut mieux passer par ce canal-là. Et puis on va mettre en lien directement avec la coordination.
Alors, est-ce qu'il y a un dernier mot aussi?
J'avoue que vu de mon syndicat, les tentatives d'initiatives communes sont difficiles. Elles se mettent en place, mais ça prend du temps. Trouver, comme tu disais, à mettre ça en musique et trouver des mots d'ordre communs, clairs, c'est parfois difficile, mais c'est clair qu'il y en a au moins un sur lequel on est tous d'accord, c'est cesser le feu immédiat. Ce que Mouzna a commencé à nous raconter en début, c'était épouvantable, et ça donne la chair de poule. Donc déjà, arrêtons le massacre. Et puis après, on a parlé de tout le reste, à plus long terme, l'autodétermination du peuple palestinien. Mais déjà, commençons par arrêter le massacre.
Ouais, ça, c'est une urgence absolue et il faut absolument que chacun fasse entendre sa voix. Comme disait Omar, on peut rejoindre toutes les associations qui existent et tout, mais il faut absolument faire entendre notre voix. Je veux juste dire que hier, il y avait 100 000 personnes à Londres. Il y avait de grandes manifestations à New York, aux États-Unis. Jewish Voice for Peace a indiqué qu'il y avait 2000... personnes juives, d'origine juive, qui avaient manifesté pour que ça s'arrête immédiatement et pour l'échange de prisonniers, parce que c'est aussi ça. Voilà, et je crois que nous, en France, on est en train de travailler contre le vent, mais qu'il va falloir forcer le vent.
Un dernier mot peut-être ? Une chose, parce qu'on nous accuse d'importer le conflit, ça aussi c'est une terminologie qu'ils aiment bien. Alors concrètement, la seule chose qu'on peut constater, c'est que la France importe des drones d'Israël pour surveiller les quartiers populaires et les manifestants. Je dis bien les quartiers populaires et les manifestants, même si ça commence bien sûr dans les quartiers populaires. De ce point de vue-là, il y a une importation. Par contre, nous empêcher d'être solidaires des peuples en souffrance, quels qu'ils soient, et en l'occurrence ici le peuple palestinien, c'est juste une dinguerie. Si ça, c'est importer un conflit, alors de ce point de vue-là, oui, mais concrètement, on est en conflit, oui, avec le gouvernement et toutes les officines sionistes qui nous empêchent d'être solidaires et de marquer notre solidarité à l'endroit du peuple palestinien. Nous continuerons de le faire, d'autant plus que c'est incommensurablement plus facile pour nous ici que pour eux là-bas. Donc c'est le minimum qu'on puisse faire, être solidaires du peuple palestinien. Et évidemment qu'il y a des liens en même temps très forts, parce que je le dis très clairement, dans les quartiers populaires, eh bien, on voit bien que toute la hagra qui est faite aujourd'hui dans les quartiers, parce que tu es frappé, tu es abattu, tu es molesté, tu es mutilé parfois pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. Et cette dimension de s'attaquer à des individus pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font, ça relève du racisme structurel. Et ce que fait aujourd'hui l'État d'Israël, il n'y a pas de colonialisme sans racisme, c'est pas de moi, c'est de Fanon. L'ensauvagement de l'Europe, c'est pas de nous, c'est de Fanon. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et heureusement qu'il y a des personnes, des militants et des militantes, des organisations comme le NPA, RP, la LFI, et d'autres organisations syndicales, solidaires et d'autres, beaucoup d'autres, l'UJFP, qui, et des associations de quartier, encore une fois, elles sont petites, mais quand même, elles font quand même pas mal de bruit, comme ASP et d'autres associations un peu partout, pour faire en sorte que cet ensauvagement ne puisse pas atteindre les horreurs qu'on a pu connaître dans l'histoire, même si on craint le pire avec, évidemment, l'extrême droite au pouvoir d'ici peu.
Ouais. Je voudrais dire merci à tout le monde, merci Omar, merci Michel, merci Dror, merci à Mouzna qui a dû partir en cours. Et quant à nous, on se retrouve dans la rue et dans toutes les mobilisations de soutien à la lutte du peuple palestinien pour ses droits et pour son autodétermination.
Tahia Palestine.
Tahia Palestine.